quand nos petits-enfants vont lire ça dans leur livre d'école, ils vont dire, oui, mes grands-parents existaient dans ce temps-là. De la même manière, j'entendais mon grand-père parler de la grippe espagnole. C'est un temps bizarre, mais de toute façon, on est en lui. Et la vie sans lui, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça doit être éprouvant. Parce que tout ce qui gèle le mal, tout ce qui nous donne de toujours penser qu'on est là pour toujours, tout va toujours aller bien, si ça peut servir entre les mains de Dieu pour réveiller les gens et de chercher un véritable espoir, une vraie sécurité. Puis, honnêtement, au travers de tous les événements qui sont arrivés dans l'histoire de l'humanité, beaucoup de gens se sont proposés comme étant des gens qui indiquaient le chemin. Mais personne n'est jamais venu dans le monde dire qu'il était littéralement le chemin. Beaucoup de gens ont proposé des moyens de vivre, mais quand on a le prince de la vie lui-même qui vient, et puis ce n'est pas une religion qui s'est improvisée du jour au lendemain. Le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, a préparé l'humanité depuis le début de l'ère de la civilisation humaine. C'est pour ça qu'étrangement, des gens qui avaient parcouru la terre pour aller annoncer l'Évangile où il n'y avait jamais été proclamé, vous pouvez trouver ça dans des histoires de missionnaires, ils sont arrivés souvent avec des traces de l'Évangile, avec des traces d'un culte que de la femme sortirait un jour une postérité. Ou encore une fois, même des histoires du déluge, un peu partout sur la face de la terre. Le Seigneur a laissé des traces, mais il faut que le Saint-Esprit lui-même vienne déchirer le voile. Et quand c'est ouvert devant nous, on est surpris. Tu sais, ça devient même un nouveau mystère dans notre vie. Comment ça se fait que nos amis, nos familles ne croient pas? Ne croient pas en Jésus-Christ? Tu sais, c'est un mystère. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, bing, du jour au lendemain. C'est quand même intéressant, les textes pour aujourd'hui ont été lus. J'aimerais juste qu'on revienne pour voir comment Marie, qui a été cette femme dans toute l'histoire de l'humanité, cette jeune femme qui avait été préparée par toute l'ancienne alliance, parce que la parole nous rappelle que c'était des justes. Joseph et elle étaient des justes. Entre autres, sa tante et puis sa cousine, c'est-à-dire Élisabeth et son mari, étaient aussi des justes. N'oubliez pas, un juste, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas pécheur. On est tous des pécheurs. Mais c'est quelqu'un qui a vu son besoin et qui ont toujours espéré dans la promesse. Et en espérant dans la promesse, leur mode de vie était correspondant à ce que Dieu demandait. Ils observaient la loi, non pas pour être sauvés, mais ils observaient la loi parce qu'ils réalisaient que c'était d'obéir au Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Déjà là, un mode de vie dans l'obéissance. Et c'est pour ça que si vous avez la foi, la véritable foi, Jacques la met à l'épreuve, la foi. Beaucoup de gens disent croire en Dieu. Puis à l'époque que Jacques écrit sa lettre, il écrit ça à ses compatriotes qui croient dans le Dieu de la Bible. Mais est-ce qu'ils croyaient vraiment le Dieu de la Bible? Parce que Jésus lui-même leur dit, « Si vous auriez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il parlait de moi. Si vous aviez la vraie foi, la foi d'Abraham, vous vous seriez réjouis de ma présence, comme lui s'est réjoui de voir mon jour. » Donc, la vraie foi, elle se voit toujours par rapport à l'obéissance. C'est pour ça que c'est dangereux de se raconter des histoires et de demander même au Seigneur, « Est-ce que j'ai vraiment mis ma foi en toi? » Donc, l'histoire de cette jeune femme, on peut lire ça ensemble encore. Donc, on se rappelle ici, c'est au sixième mois où sa cousine Élisabeth est enceinte. Donc, verset 26, Luc 1, 26. Excusez-moi à ceux qui sont à la technique. Là, si on vite sur le piton, c'est bon. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, ou littéralement plus Myriam. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Si on s'arrête juste sur cette première étape, imaginez comment elle a dû vivre cet événement-là. D'abord, n'oubliez pas, les anges, quand ils viennent dans le monde des humains, ils viennent toujours sous forme humaine. Donc, elle voit ce jeune homme. D'abord, elle se demande c'est qui. Et il se nomme Gabriel. C'est intéressant, parce que ce n'est pas sa première mission sur Terre. Gabriel a déjà aussi visité la Terre pour annoncer des choses. Vous vous rappelez à qui? Daniel. Daniel qui cherchait une réponse, qui ne comprenait pas, qui priait, qui jeûnait, qui attendait devant Dieu une réponse. Dieu lui envoie son messager, Gabriel. Gabriel, qui veut dire aussi l'homme de Dieu. Il vient sous forme humaine. Et il annonce à cette jeune fille, qui sait très bien comment les enfants se font, elle n'est pas innocente quand même, là. Tu vas être enceinte. N'oubliez pas, on est dans une époque et dans une culture que être enceinte sans être mariée, ce n'est pas très bon. Sa réputation est sérieusement en jeu, et même dans certaines circonstances, sa vie aurait pu être en jeu. Tu sais, quand souvent les gens se demandent « Est-ce que l'appel de Dieu, c'est pour mon bonheur? » L'appel de Dieu est toujours pour la gloire de Dieu. Cette jeune femme, acceptant, ça risque de ruiner sa vie au complet. Comment son fiancé va le prendre? Elle a beau dire « Je vais y expliquer », mais quand même, t'sais, honnêtement, elle va expliquer qu'elle est enceinte, mais que c'est Dieu qui a fait le miracle. Joseph a l'air un bon gars, t'sais, gentil sûrement, mais il faut un petit peu d'aide pour croire sa fiancée. Surtout que l'ange Gabriel, pour fortifier la foi de Marie, qui va accepter, qui accepte le défi, elle risque de perdre son mariage, elle, sa réputation, d'être chassée, se retrouver une fille mère, tout seule, abandonnée. Elle accepte. C'est pour ça que Il faut faire attention des fois de ne pas trop être en réaction face à des gens qui ont eu peut-être un peu trop, qui ont élevé Marie un peu trop, là. Mais il ne faut pas faire trop de réactions à l'erreur. Il ne faut pas non plus la rabaisser. Il faut que ça reste un modèle de foi. Marie, honnêtement, en tout cas pour moi personnellement, selon les Écritures, c'est vraiment un modèle de foi. Parce qu'elle n'a pas accepté un appel pour réussir sa vie. Combien de gens essaient d'avoir un appel dans l'œuvre de Dieu pour devenir quelqu'un? Ici, elle accepte l'appel de Dieu, et à moins que Dieu intervienne, ça va ruiner toute sa vie. Ça va ruiner sa vie. Il n'y a aucun murmure, aucune critique, rien de négatif. Enfin, je lui dis, écoute, OK, mais moi, je couche avec personne en ce moment, je suis fiancé. Vu que c'était des gens qui respectaient la loi de Dieu, pas de sexualité avant le mariage. Et Joseph, lorsqu'elle va lui apprendre, parce qu'elle est partie chez sa tante ou sa cousine Élisabeth, qui était d'un âge avancé, qui était enceinte, parce qu'oubliez pas, ça a commencé au sixième mois. C'est au sixième mois de Élisabeth qui est enceinte. Elle va passer les trois derniers mois avec elle dans les montagnes d'Éphraïm, chez sa cousine, jusqu'à ce qu'elle accouche l'enfant. Et inévitablement, elle revient trois mois plus tard, trois mois enceinte. Regardez les apparences. Selon les apparences, comment on aurait interprété ça d'après vous? À moins qu'on croie la parole de Dieu, vous ne pouvez pas simplement juste interpréter les faits. Vous avez besoin de l'interprète des faits. Et sans la parole de Dieu, personne ne peut faire la juste interprétation, ni sur Marie, ni même sur Jésus. Ce n'est pas pour rien que souvent, quand on mettait Jésus au défi, vous vous rappelez, à un moment donné, les Juifs avaient déjà dit à Jésus, « Nous, on connaît notre Père. » Tu sais, souvent dans une famille, honnêtement, il y a juste la mère qui est sûre. Marie savait très bien, et quand elle est revenue et qu'elle a annoncé la nouvelle à Joseph, Joseph, vu qu'il était un homme de bien, c'est Matthieu qui explique cette partie-là de l'histoire, il n'a pas voulu y faire de trouble, mais c'est hors de question qu'on poursuit nos fiançailles. Alors, il va rompre l'alliance avec elle, mais il ne va pas l'exposer publiquement. C'est un homme de bien. Il ne veut pas y faire du tort, il ne veut pas se venger, il ne veut pas être méchant, mais c'est hors de question qu'il poursuive avec sa fiancée qui revient enceinte de trois mois, ayant passé trois mois chez sa cousine dans une autre région. Il n'est pas capable d'y croire, là. Mais le Seigneur va intervenir par un songe. Et on voit vraiment, c'est quand même spécial. Le Seigneur va parler à Joseph pour dire, « Non, ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. Garde-la. » Il a cru. Lui aussi, il a cru. Est-ce que vous voyez que dans l'œuvre de Dieu, le seul chemin possible, d'abord, l'attitude essentielle, c'est l'humilité. Si vous vous embarquez dans l'œuvre de Dieu, si vous voulez marcher avec Dieu pour la gloire de votre nom, choisissez-vous d'autres choses. Devenez un vendeur de 7-Up ou quelque chose de gentil. Il y a plus de chances que vous allez avoir la gloire de ce monde. Mais si vous voulez servir le Seigneur, c'est autre chose. Il faut l'humilité. Deuxièmement, sans la foi, sans mettre notre confiance dans la parole de Dieu, il est impossible de lui plaire. En d'autres mots, vous n'atteignez pas le but. Comme Jésus l'avait dit même aux gens de son époque, les pharisiens, les scribes, il dit, vous ne pouvez croire, vous ne pouvez pas croire en Dieu, en d'autres mots, parce que vous cherchez la gloire des hommes. Si quelqu'un cherche et vit pour trouver la gloire des hommes, sa réputation personnelle, eh bien, il se raconte des histoires, il ne marche pas avec Dieu. C'est la gloire de Dieu qu'il faut chercher. Donc, Joseph va accepter et lui aussi risque de perdre sa réputation. Parce qu'il va être obligé aussi, quand on va demander de qui est l'enfant, il est obligé de dire, il n'est pas de moi. Il faut qu'il respecte la prophétie d'Ésaïe. Il va parler selon les Écritures. Même s'il est dans un peuple qui dit respecter les Écritures, eh bien, dans la vie de Jésus, on a vu que il y a une différence entre connaître les Écritures et respecter et croire les Écritures. C'est pour ça que Jacques dit, c'est pas assez de dire que je crois en Dieu. En passant, il dit, Satan, il sait très bien que Dieu existe, il croit en Dieu et il tremble. En d'autres mots, il est en train de dire, si vous avez la véritable foi en Dieu, elle se manifeste dans votre foi que vous aurez dans l'œuvre et dans la personne de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Et donc, elle accepte ce défi. Et puis, comme on a lu finalement, que tu nous as lu au chapitre 2, qui était le texte, on va le relire encore, vous allez voir, c'est vraiment beau. Chapitre 2, verset 1 dit, « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée et de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » On s'arrête là pour commencer à voir ça. Vous remarquez ici ce que le texte dit. D'abord, vous avez un grand personnage très important, très puissant, M. Auguste, César, qui était au fond le neveu de Jules. Et il semblait avoir été un certain César important, très influent, un bon. C'était pas si pire, tiens. Mais c'est là qu'on voit, et on peut s'en servir aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez que Dieu se sert de César pour déclencher un recensement de tout son empire? Et ça, là, c'est une grosse organisation. Il faut qu'il envoie tous ses conseillers, ses délégués partout dans tout l'empire. Tu sais, dans ce temps-là, il n'y a pas Internet, là. Hein? Je sais que c'est difficile à croire pour certaines personnes. Internet, ça ne fait pas si longtemps que ça existe. Moi, dans le temps que j'étais petit, le téléphone était sur le mur, avec une rondelle. Puis si tu voulais avoir un téléphone pour te promener dans la cuisine, il fallait que tu aies un grand fil spring. Maintenant, il est obligé d'envoyer des délégations dans tout son empire pour faire le recensement. Et lui, ce n'est pas juste pour savoir combien il y a de personnes. C'est une question de relevé d'impôts. C'est pour de l'argent. Donc, tous ces messieurs s'en vont dans l'empire un peu partout. Et n'oubliez pas que Israël, c'est au bout de l'empire. Tu sais, c'est un petit recoin de rien. C'est quasiment insignifiant dans l'empire romain, ça, tu sais, Israël. Tu sais. Et puis, d'après vous, les fonctionnaires, ils vont s'installer où? Ils vont s'installer dans toutes les villes, parce que tout le monde doit se faire recenser dans la ville, et spécialement en Israël. N'oubliez pas, c'est très important pour les Juifs de savoir de quelle lignée vous êtes. Rappelez-vous, dans le livre d'Esdras et de Néhémie, quand ils sont revenus de Babylone, il fallait absolument revenir avec ta lignée pour savoir où tu retournes dans le pays, car chaque territoire appartenait à une des tribus. Et si tu étais marié avec une personne étrangère, tu devais même divorcer. C'était vital de quelle tribu tu viens et de quelle famille dans cette tribu tu viens. Et Joseph, ben, il vient de la maison de David. Et il semble que Marie aussi. Parce qu'oubliez pas, David a eu plusieurs fils. Bref, ça c'est une autre histoire. Et ils doivent aller donc s'enregistrer, s'inscrire à Bethléem. Parce que c'est la ville de David. C'est là que David est né. C'est sa ville. Et inévitablement, les fonctionnaires, ben, ils habitent tous les hôtels. Et puis dans ce temps-là, Holiday Inn n'avait pas encore commencé sa business. Fait que l'hôtellerie était assez petite. Hein? C'était des maisons avec peut-être un deuxième étage, ainsi de suite. Fait que toutes les places étaient prises et il restait plus de place dans l'hôtellerie. Ce n'est pas que les gens étaient méchants. Il ne faut pas voir les gens qui sont méchants. T'sais. Non, pas du tout. Il n'y a pas de place. Les fonctionnaires ont tout pris des places. Et puis, peut-être le propriétaire d'une de ces places-là, ben, il dit il reste le sous-sol. Dans le sens où le rez-de-chaussée servait à mettre les animaux. Puis le premier servait finalement à habiter. T'sais, longtemps, les gens ont vécu comme ça. Et il a dit, mais regarde, il me reste le rez-de-chaussée. On va tasser un peu le bœuf, puis les chameaux, puis je ne sais pas trop. T'sais. Et puis, dans l'humilité, ben, Joseph et sa femme, OK, c'est mieux que rien. Peut-être aussi c'est une petite grotte, parce que justement, quand on a fait un tournage en Israël avec l'heure de la bonne nouvelle, notre guide nous avait trouvé une place juste au pied de Bethléem. Il y a comme un grand champ avec des oliviers, et il y a des petites grottes. T'sais? Et puis on a fait un tournage, puis dans une des grottes, je me suis dit, peut-être que le Seigneur aurait pu naître ici. T'sais, parce que ça servait, puis même aujourd'hui, ça sert encore à des gens qui vont squatter là-dedans. Il y avait encore un petit foyer là, avec des pierres, puis un feu qui était éteint. Puis souvent, les gens, ben, ils vont là. T'sais. Puis quand je regardais ça, je me disais, hey, Seigneur, tu es quand même assez incroyable. Ma mère, elle aurait capoté bien raide si elle aurait dû me mettre dans une mangeoire d'animaux. T'sais. Mais quand elle a accouché Marie, ben finalement, elle a emmailloté son petit bébé, tu comprends? Ou peut-être Joseph, peut-être qu'elle, je ne sais pas, vient d'accoucher, elle est fatiguée, je ne sais pas comment ça s'est passé. Là. Joseph l'emmaillote peut-être. Puis là, ben, OK, pas de lit, il tasse la mangeoire, tu sais. C'était des souvent creusé comme dans de la pierre un peu. Là. Il nettoie ça, il met de la paille, il met sûrement un petit linge par-dessus, parce que ça pique un peu de la paille, c'est fatigant, tu sais. Il met un linge, il met le petit bébé là-dedans, un petit lit. En passant, je me suis inspiré de Joseph quand ma petite est née. Parce que mon beau-frère dit, « Fais-toi-en pas, m'offrir un petit lit pour ta fille. » Et il est en retard. Ça a pris 2-3 semaines avant que je reçoive le fameux petit Moïse, là, le petit lit. Là, mais, je dis à ma femme, « Écoute, elle ne peut pas coucher avec nous autres dans le lit. » Il y a une autre histoire dans la Bible, là, que deux femmes ont couché avec leur bébé, puis il y en a un qui est mort, il est mort étouffé. Je ne voudrais pas que ma Naomi est mort étouffée. Là, fait que je dis, « On va y faire un lit. » Je pogne un tiroir. Je vide le linge, je mets des bas dans le fond pour que ça soit doux, un drap. Je dis, écoute, si c'est bon pour Jésus, c'est bon pour Naomi. Ça fait qu'elle couchait là-dedans pendant un petit bout de temps. Si ça pleurait trop, je fermais le tiroir. C'est une joke. Et puis, ce qui est vraiment fascinant, c'est que le texte nous dit ici que Joseph est descendu, s'est inscrit avec Marie, regardez le verset 5, avec Marie, sa fiancée. Il n'a pas officialisé encore le mariage en couchant avec elle. Et Matthieu va nous rappeler qu'il ne coucha pas avec elle, il n'a eu aucune relation sexuelle avec Marie pendant qu'elle était enceinte, jusqu'à ce qu'elle ait eu l'enfant. C'est quand même beau. Ça nous montre aussi finalement que ces gens qui sont, la parole appelle des justes, une caractéristique des gens qui craignent, qui respectent, qui aiment Dieu, mais il y a une chose que tu veux posséder, c'est ta propre vie. Si tu ne te possèdes pas, tu ne peux pas te donner. Puis l'amour véritable, ce n'est pas de prendre. L'amour véritable, c'est d'être capable de se donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est le commandement de Christ. Vous allez apprendre à vous aimer les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Faites attention d'être dans un type d'amour que les Grecs appelaient Eros. Eros, c'est « j'aime parce que j'ai besoin ». Mais quand tu n'as plus besoin, tu donnes plus après. Il n'y a pas de loyauté dans le type d'amour du « j'ai des besoins ». Le Seigneur veut nous donner d'abord qu'on puisse savoir en lui comment être assasié pour être capable de donner après. Joseph est capable de donner à Marie la liberté qu'il faut pour ne pas coucher avec elle. C'est sa fiancée. Est enceinte, il a cru l'histoire, il accepte. Sa propre réputation peut être moquée par les hommes de son village. Marie a sûrement aussi, parce qu'ils sont retournés en Galilée après. Ils ont été en Égypte d'abord, mais quand ils sont partis en Galilée, tout le monde demandait, « Hey, vous êtes partis donc bien longtemps. » Parce qu'oubliez pas, de Bethléem, il y a un autre roi qui est un pourri. Je sais qu'on est tous pourris, mais lui est plus pourri. Il y a des pourris pourris. Hérode, c'est un pourri pourri. Et lui, quand il a su finalement que par des gens en dehors d'Israël, c'est une manière d'humilier Israël. C'est comme si le Seigneur dit, « Va te montrer Israël. Ne te crois pas supérieur aux autres nations. » Car des gens de Babylone, qui sont même des mages, des magiciens, des astrologues, ce qui est vraiment loin des Écritures, vont plus croire aux Écritures que vous-même. Ils avaient vu son étoile. Et ils avaient défini en disant, selon les écrits, peut-être qu'ils avaient de Daniel. N'oubliez pas, si vous lisez le livre de Daniel, il y a un compte à rebours qui va se faire pour l'arrivée du Messie. Ce n'est pas pour rien qu'en Israël, à l'époque que Jésus est né, il y avait des faux Messies qui soulevaient les foules, qui animaient entre autres un parti qu'on appelait le parti des Zélotes, qui voulaient s'inspirer entre autres des Maccabées, qui eux autres avaient repoussé finalement les gens, finalement, les Grecs qui avaient envahi finalement Israël sous Épiphane, là, celui qui s'appelait Épiphane. Là. Il se prenait pour un dieu en apparence, le pauvre monsieur. Là, il était un peu fou là, avec. Mais Hérode, lui, il a acheté de César Auguste. Il a acquis finalement le droit de devenir le roi en Israël. Mais selon la constitution d'Israël, ce monsieur-là n'avait pas le droit. Hérode n'avait pas le droit d'être le roi en Israël. Il fallait être de la lignée de David. Si un avait eu un droit légal d'être le roi en Israël, ça aurait été Joseph. Mais Joseph est devenu un paysan, un pauvre, un gars de la construction. Complètement oublié. Et même Israël, à l'époque de Jésus, est dans une forme d'apostasie. Un faux roi, envahi par les Romains. Le gros, finalement, des théologiens de l'époque, les Sadducéens, croyaient même pas à la résurrection, au monde angélique. C'était vraiment des gens qui vivaient comme s'il y a juste cette vie. Le temple était envahi, finalement, par des sacrificateurs complètement corrompus, qui avaient en plus transformé le temple, le lieu du parvis, qui était supposé normalement de recevoir les nations, parce qu'Israël devait être une lumière pour les nations. Israël avait abandonné son appel d'être pour les autres. Il ne vivait que pour elle-même. Elle ne vivait que pour elle-même, Israël. Jésus vit dans un temps très mauvais. Très, très mauvais. Ce n'est pas une bonne époque. Quand Jésus est né, ce n'était pas une bonne époque. Fait qu'on peut se consoler nous-mêmes en disant, même si notre époque en ce moment n'est pas bonne, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la première fois que ça ne va pas bien sur la terre. Ce n'est pas la première fois qu'on a l'impression que le mal va triompher. Le mal triomphera jamais. Car Jésus-Christ, quand il est venu dans une époque où est-ce que les Romains contrôlaient la place. Il y a un faux roi qui est en Israël. Il y a une gang de pourris qui sont dans le temple. Ça va mal à grandeur. Mais le roi, le vrai roi, est arrivé. Est-ce que, maintenant, je voudrais juste qu'on s'arrête sur un fameux mystère. Vous vous rappelez que Jean, dans Jean 1, 14, si on retourne là pour lire, il nous rappelle qui est ce Jésus. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Puis il ne faut pas oublier que Jean nous dit que cette parole, la parole, le Logos, verset 1, c'était Dieu. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Maintenant, quand on regarde finalement ce qui arrive ici et que les bergers vont être avertis par une délégation d'anges. Tu sais, quand tu envoies une délégation du ciel pour annoncer une bonne nouvelle, tu envoies ça au plus important de la place, pas vrai? Et là, le Seigneur, encore une fois, nous montre le vrai chemin. Si vous prenez le chemin de l'orgueil, de l'arrogance, puis de vraiment... je ne dirais pas l'autre expression, elle n'est pas gentille. Eh bien, faites attention que de dire, il faut que je devienne quelqu'un d'important, il faut que je réussisse tout ce que je fais, il faut que je sois le meilleur, comme ça Dieu va me remarquer. Le Seigneur n'est pas impressionné par les œuvres humaines, parce que souvent nos succès sont au détriment des autres. Ici, il va venir s'adresser aux bergers. L'ange, c'est peut-être Gabriel qui revient, on ne sait pas, il est juste appelé un ange, l'ange du Seigneur. Il s'en vient leur annoncer une bonne nouvelle, comme on l'a lu. Un sauveur est né. Emmanuel, Dieu avec vous maintenant. Maintenant, regardez bien. Arrêtons-nous à un mystère. Paul le définit aussi. Vous rappelez, il dit, le mystère de la piété est grand. C'est quoi, entre autres, le mystère de la piété qui est grand dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16? Timothée 3, 16. ce qu'il cherche, là, c'est entre Genèse et l'Apocalypse. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en la chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde entier, élevé dans la gloire. Eh bien, celui ici, celui qui a été manifesté, eh bien, le celui qui est un prénom du nom, le Dieu vivant. Juste le verset d'avant, c'est on est dans l'Église du Dieu vivant. Maintenant, regardez bien. Jésus a fait des miracles. Hein? Dieu a fait des choses incroyables. Hein? Il a fait la création. Genèse chapitre 1, Dieu il dit qu'il a tout fait, il a tout créé. Regardez bien, c'est vraiment la chose la plus étrange. Dieu, le Créateur, s'est créé en Jésus-Christ. Il s'est créé un corps, des os, une âme, une volonté propre. Il s'est créé 100% humain, tout en restant toujours 100% Dieu. Il s'est créé, le Créateur s'est créé humain. Je sais que ça se dit mal, mais ça se dit bizarrement, mais c'est ça. Le Créateur s'est créé. Et quiconque rencontrait Jésus en personne, rencontrait Dieu en personne. Et c'est pour ça que Paul nous rappelle ça différemment dans l'Épître aux Colossiens. Le Dieu invisible s'est rendu visible en image de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, quand ils ont juste dit, « Montre-nous le Père, montre-nous Dieu. » Il disait, « Depuis que je suis avec vous, tu n'as pas remarqué? » Quiconque m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous réalisez que Jésus, c'est le Créateur? Parce qu'encore dans l'Épître aux Colossiens, qu'est-ce qu'il nous est dit? Tout a été créé par lui, par Jésus. Tout a été créé par lui. Et tout a été créé pour qui? Pour lui. Est-ce que vous réalisez maintenant qu'on n'est pas sauvé pour nous autres? Je sais que ça choque un peu nos petits égaux, là. Surtout en Amérique du Nord, où est-ce que tout le monde est un petit peu enflé là-dessus. Parce qu'on parle toujours du salut. Jésus t'aime tellement, il veut te sauver. C'est vrai qu'il veut te sauver. C'est vrai. Mais il veut te faire participer à sa gloire. Il nous aime tellement d'un amour incompréhensible. Il nous aime. Il nous aime au point d'avoir pris notre misère. Il s'est fait humain. Il s'est créé humain. Il a pris la chair comme celle du péché, mais sans le péché, sans la séparation d'avec Dieu. Mais il s'est créé comme il avait créé les premiers humains qui devaient marcher avec lui, mais qui ont brisé l'alliance. Il s'est créé pareil. Il est venu tout aussi dépendant. C'est comme si l'Éternel s'est fait dans le temps. Le vivant s'est fait mortel pour être capable de donner sa vie. Celui qui sait tout, il s'est fait celui qui devait tout apprendre. Jésus a dû tout apprendre. Sa mère a dû finalement échanger ses couches. Imaginez Marie, elle a allaité Dieu. Le petit bébé, faire passer ses petits rots. Et après ça, Joseph et Marie, ils ont sûrement appris à Jésus à marcher quand il est tout petit. Tu sais, nos petits bébés, on leur apprend. Hein? Tu sais, au début, là, ils marchent, ils se traînent à terre, ding, 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 tu sais, ils s'en vont. Et puis, quand leur premier pas, la soeur, ça c'est tout sur Facebook à cette heure, là, les premiers pas des bébés. Et puis, mais il a dû apprendre. Puis quand il a dû apprendre, c'est pas pour rien. Le Seigneur, il savait quand il nous a créés, comment il nous a fait. Il savait qu'on était pour apprendre à marcher. Vous avez remarqué les bébés, comment ils sont faits? Ils sont protégés des chutes. Ils ont des plus grosses joues et un petit nez de rien. Fait quand ils tombent, ben ça rebondit, ça fait moins mal. Puis en vieillissant, les joues dégonflent puis le nez pousse. Mais Jésus lui-même a dû apprendre à marcher. Moi, je trouve ça trop beau. Il a dû apprendre à lire. La parole de Dieu a dû apprendre à lire. Et puis, il allait à tous les samedis avec ses parents à la synagogue. Tout petit, il a appris les leçons de la Bible, de son rabbin. T'imagines-tu d'avoir été le rabbin de Dieu? Puis souvent, les rabbins de cette région-là, c'est une région qui était très méprisée, la Galilée. Ils appelaient même cette région la Galilée des gentils. Pas des gentilles personnes, mais des païens, les gentils. Et puis, c'est peut-être un rabbin assez ordinaire. Tu sais. Mais il a appris à Jésus ses premières leçons de la Bible. Joseph a appris aussi à Jésus la Bible. Parce que c'est un juste. S'il était un juste, il observait ce que Dieu disait aux parents de faire. Tu apprends à tes enfants tous les témoignages que je vous ai donnés en Israël. Psaume 78, Tu vas enseigner la prochaine génération afin qu'ils ne soient pas rebelles comme vous. Enseigner toutes les œuvres de Dieu. Fait que Joseph a enseigné toutes les histoires en disant en passant, on est nous de la lignée du roi David. Et Dieu a fait une promesse à David qu'un jour, il va avoir un roi qui va s'y asseoir pour toujours. Et selon ta mère, c'est toi. Puis il reste à Nazareth dans un petit village de rien. Tu sais, quand ils sont venus d'Égypte, il était un petit enfant quand un ange est venu avertir Joseph en songe, vite, prends l'enfant et ta femme, sors. Et il est parti se réfugier en Égypte. Parce que Hérode faisait tuer dans le village, il a fait tuer tous les petits garçons de 2 ans et moins. Il a envoyé une escouade spéciale et ils ont tué tous les petits garçons. Ils sont rentrés dans la maison, ils ont pris les petits garçons de 2 ans et moins, tranche la gorge. C'était un moyen malade. Est-ce que vous pensez que c'était des bonnes périodes en Israël dans ce temps-là? Vous entendez le cri des parents, des mères qui devaient pleurer la mort de leurs petits garçons? C'est pour ça qu'il est dit que Rachel pleure ses enfants. C'est horrible. Il est venu annoncer la paix à ses ennemis. Ce n'est pas parce qu'on est aimable qu'il nous aime Dieu. C'est qu'il a décidé de toute éternité, avant même de nous créer, il a décidé de nous aimer d'un amour incompréhensible. Et il était décidé dans la Trinité, dans ce mystère de la Trinité, qui sont 3 personnes, mais un seul Dieu, et qui sont les 3 égaux, que la 2e personne de la Trinité, qu'on appelle le Fils, se destinait à un jour être incarné, à devenir un être humain, pour vivre une vie de souffrance, dès son berceau, dans une mangeoire. Parce que le mot « crèche » dans le grec, ça se traduirait mieux par une mangeoire d'animal. Dès tout petit, il vient d'une lignée royale, mais il n'est pas né dans un palais. Mais aujourd'hui, il règne dans son palais. Et il nous exhorte tous, persévérez, abandonnez pas. Continuez à me croire, faites-moi confiance. Je vous ai montré que je suis le chemin et je vous ai montré en même temps le chemin. Je vous demande juste une chose, en dehors de me faire confiance dans ce que je vous dis, vous ne pouvez pas me plaire. Sans l'obéissance, la foi n'est jamais manifeste. La foi véritable se manifeste que par de l'obéissance. Et c'est pour ça que le Seigneur nous montre le chemin. Il a été élevé après ça, quand il est sorti d'Égypte. Et Matthieu nous rappelle qu'en sortant d'Égypte, ben c'est lui le véritable Israël de Dieu, selon la chair. C'est lui le dernier bébé, au fond, circoncis, le 8e jour, selon la loi de Moïse, pour dire, maintenant l'alliance est accomplie. C'est lui la postérité. Parce que quand Dieu a fait alliance avec Abraham, et que le signe de l'alliance était la circoncision, c'était, en d'autres mots, il faisait une alliance avec sa semence. Mais quand la semence est venue, c'est pour ça que Paul disait aux païens, « Non, vous ne faites-vous pas circoncire quand vous allez venir à Christ. C'est accompli, c'est réglé. Ce n'est pas être circoncis ou incirconcis qui compte. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Parce que quand Jésus-Christ, après manifester son ministère, qui a fait plein de miracles, qui a fait plein de choses. Il a enseigné comme personne n'a jamais enseigné. Vous vous rappelez que même un jour, la police du temple était envoyée pour l'arrêter. Mais il était en train de parler à la foule. Puis les gars ne voulaient pas le déranger parce que, tu sais, ils ont peur de la foule en même temps. Tu sais. Et puis, après l'avoir écouté, ils ne l'ont même pas arrêté, ils sont retournés au temple. Il dit, écoute, on ne voulait pas arrêter. Jamais, jamais un homme a parlé comme cet homme-là. Même ses ennemis étaient impressionnés par le type d'enseignement qu'il donnait, les miracles qu'il faisait. Et les disciples étaient sûrs que ça réglerait le problème. Mais après 3 ans et demi de ministère, Jésus dit, « Maintenant, comme les Juifs, vous allez m'abandonner. » Ça doit finir que toute l'humanité est en échec devant Jésus, même ses propres disciples. Et Pierre, il prend mal. « Non, non, nous autres, on va aller jusqu'au bout. Est-ce que ces autres t'abandonnent? Moi, jamais! » Et ce même Pierre, Jésus dit, le coq n'aura pas le temps de chanter, que tu vas m'avoir renié 3 fois. Tu vas jurer que tu ne me connais pas. Écoutez, vous avez des bonnes intentions, mais vous ne comprenez pas, la chair profite de rien. Votre chair profite de rien, votre chair est faible. Vous allez tous m'abandonner, c'est marqué dans les Écritures. Le berger va être frappé et les brebis vont être dispersés. Mais Pierre, j'ai prié pour toi, pour ta foi, Et quand tu vas être converti, retourne vers tes frères pour les consoler. Il devait aller. C'est pour ça qu'il dit, vous n'avez pas compris, les gars, ce n'est pas par des miracles, ce n'est pas par de l'enseignement qu'on va sauver l'humanité. Il est écrit, je dois souffrir. J'ai un corps humain, j'ai pris une vraie vie humaine pour payer vos dettes. Sans effusion de sang, sans que je vous donne ma vie en rançon, personne ne peut être sauvé. Alors, je dois être frappé de la colère de la justice de Dieu. Il va subir sa propre justice qui, en toute justice, nous condamne tous à la mort et à une mort éternelle. Il dit, mais par contre, je vous ai aimé. Je vais prendre votre dette. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je suis venu sauver ce qui est perdu. Je ne suis pas venu sauver les meilleurs. Je suis venu sauver ce qui est perdu. Et c'est pour ça, finalement, que Marie, quand l'ange lui a parlé, puis surtout après ça, il y a Siméon qui va lui parler. Marie, l'enfant que tu vas avoir, ça va être un épée qui va te transpercer le cœur. Tu vas souffrir. Ça doit être terrible de voir une mère voir son enfant mourir devant elle, battu à mort, cloué sur le bois, couronné d'épines, moqué de tout le monde. Mais Jésus payait notre dette. Noël, c'est peut-être une des plus belles fêtes, parce qu'on met beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Il faut arrêter de penser que c'est toujours une fête païenne. Il y a encore toute une nouvelle gang de légalistes là, qui reviennent en ville, là, qui capotent là-dessus sans arrêt. De toute façon, il est dit dans la parole que personne ne vous juge au sujet d'une feinte. En d'autres mots, vous avez la liberté d'en faire pour vous faire un genre de calendrier de mémoire. Il faut arrêter d'être... Tu sais, il y a des gens qui sont tellement scrupuleux, ils ne sont pas reposants partout. Ils n'ont rien compris de la grâce. Ils n'ont rien compris de l'œuvre accomplie. Ils sont en train de s'adorer eux-mêmes. Moi, en tout cas, je n'ai pas de sapin de Noël chez nous. Ben, pis ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu aurais pu mettre un épinette à la place d'abord. Tu sais, Il y a des gens qui n'étaient pas au meeting quand le Seigneur donnait l'intelligence. Hein, c'est poli, c'est pas méchant ce que je viens de dire là. Mais laissez-vous pas diriger par ces gens-là, s'il vous plaît. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Il me semble que c'est assez clair. On ne fera pas de cette liberté-là pour que notre chair profite de la liberté. Non, la grâce qu'on reçoit va nous donner de rejeter l'impiété. Mais la vraie piété devant Dieu, c'est d'aimer Dieu et notre prochain. Est-ce qu'on est utile aux autres? Est-ce qu'on manifeste de l'amour véritablement aux autres ou bien on est rien que centré sur nous-mêmes pour montrer à tout le monde comment on est plus purs les uns contre les autres? Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous montrer le vrai chemin. Voici mon commandement que je vous donne. Vous allez vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Je m'en vais payer votre dette. On ne peut pas aimer plus que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et de ne pas attendre que les temps soient bons. Parce que même dans des temps très mauvais, le Seigneur règne. Bon temps, mauvais temps, il règne tout le temps. Il est en contrôle en ce moment. Flippez pas. Ça marche? Arrêtez, ceux qui paniquent, arrêtez de paniquer. Il a tout entre ses mains. Et surtout si vous dites que vous avez cru dans son œuvre, vous êtes sauvés. Normalement, la mort ne devrait même pas nous faire peur. C'est le paradis qui nous attend. On a même un des nôtres, un pécheur sauvé par pure grâce, que le Seigneur lui a même permis un jour de voir le paradis, l'apôtre Paul. Mais il a dû revenir. Ça a dû être plate pour lui. Il a dû revenir, tu vois. Et puis, il n'en a pas parlé, je pense, pendant 12 ans ou 14 ans, je ne me rappelle jamais du chiffre. Puis juste un jour, il était tellement exaspéré de la stupidité des Corinthiens. Il dit, voulez qu'on parle en niaiseux? On va parler en niaiseux ici. Là, il dit, vous parlez de quelqu'un qui a déjà été dans la présence de Dieu, au troisième ciel. C'est pour ça, plus tard, dans une autre lettre, il va dire, pour moi, la mort, c'est un gain. Je ne veux pas étirer mon temps de misère pour rien. Quand le Seigneur va venir me chercher, hey, je ne dirai pas, tu peux-tu revenir demain? Non, tu aurais dû venir hier. Lui, il a vu vers quoi on s'en va. Maintenant, soyons une source de bénédiction, maintenant, pour les gens autour de nous, afin de laisser finalement un héritage de grâce commune, mais surtout le message, le seul message qui peut sauver une personne dans cette vie. Le seul moyen de sortir vivant de cette vie, c'est de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, pas dans la nôtre, de croire dans son œuvre à lui et dire, oui Seigneur, si tu es venu sauver ce qui est perdu, Je rencontre la première condition. Je suis perdu. Maintenant, sauve-moi, Seigneur Jésus. Mets-moi à ton compte. Montre-moi que tu me sauves aussi. Prends-moi par la main. Fais de moi une nouvelle création. Et le Seigneur va le faire. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, Jésus a dit. Mais ceux qui vont être perdus, l'Épître aux Hébreux nous dit, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus méchants que les autres. C'est ceux qui auront négligé un si grand salut. Ceux qui vont penser que ce n'est pas important. OK, on verra. La mort s'en vient pour tout le monde. Tu vas voir, ça, c'est quelque chose, ça s'appelle le chemin de toute la terre. Il n'y a pas d'ange pour mourir. Dès le moment de notre conception, on peut mourir. Parce que c'est le salaire de la séparation d'avec Dieu. Mais Christ est venu racheter ce qui était perdu. Et Noël, c'est peut-être une des plus belles fêtes. Les deux fêtes qui nous cadrent, c'est Noël et Pâques. Pâques, c'est Jésus qui paye la dette et qui ressuscite en disant « Tout est accompli ». Et en ressuscitant, je vais finir là, en ressuscitant, un mois plus tard, il est monté finalement d'où il vient. Parce qu'oubliez pas, la parole est venue sur terre pour nous sauver. Il est retourné d'où il venait. Mais il est retourné toujours en Dieu, parce qu'il a toujours été Dieu, mais il est aussi retourné en être humain. Sur le trône de Dieu, en ce moment, il y a un être humain. Vous imaginez, il y a un être humain avec trou dans ses mains, trou dans ses pieds, trou dans un côté. Jean l'a vu finalement, puis il l'a décrit, tu sais, dans l'Apocalypse, « Je l'ai vu comme un agneau, comme immolé. » Il a payé la dette. Donc, tous ceux qui vont être perdus dans une nuit éternelle, c'est ceux qui auront pensé que c'était juste pas important. C'était plus important d'avoir un beau char. C'était plus important d'avoir une belle maison. Mon pauvre toi, si tu veux ta maison, soit ton tombeau, même là, on va être obligé de sortir ton cadavre parce que tu pues quand tu es mort. Puis c'est un autre qui va habiter dans ta maison. Elle va se vendre moins cher, hein? Après, quand quelqu'un meurt dans une maison, elle se vend moins cher. Tu vas faire un deal au prochain, en plus. Arrêtons d'être niaiseux. Pas compliqué. Concentrons-nous sur les Écritures. Soutenons-nous les uns les autres. Continuons à prier les uns pour les autres. Quand quelqu'un commence à défaillir un peu, portons-nous. Puis on s'encourage en nous rappelant la promesse. Trop beau. Fait que si jamais je meurs dans mes vacances, pleurez pas, s'il vous plaît. Ça marche, occupez-vous de ma femme. Mais même là, je me suis arrangé qu'elle soit correcte, là. Mais si jamais je meurs, capotez pas. Je veux dire, je vais vous préparer la place en haut, je vais voir, tu sais. Mon père est déjà là, de bout, là, en train de dire, OK, tu sais. Il y a plein de monde qui nous attend. Pasteur Gaétan, il doit être en train de vouloir faire le journaliste à quelque part au ciel, je ne sais pas. Ness Wilson, qui a fait les premières missions avec nous autres, à venir avec nous autres, trop beau. Madame Ertol, qui voulait que tout le monde entier soit sauvé tout le temps, hein, concerné. Denis Lamartinière, ça c'est une mort tripante par exemple. Lui qui a eu une mort, il était là, il faisait son examen d'homélie. Il a fait un petit message sur Matthieu 28 en disant « N'oubliez pas, on a un message, je vous encourage, il faut continuer à le sortir. » Quand il a fini, il est tombé comme ça, sans connaissance, sans douleur, il est mort sur coup. Il est mort drette là. C'est pas beau ça, mourir en prêchant? Ça c'est le rêve de toi, pasteur. Hey, si je meurs de même là, je sais, le doc côté va avec la machine. Laisse-moi partir! En tout cas, on a une vie tripante. On a une vie tellement fantastique. Mais même ce qu'on vit en ce moment, ça a du sens qu'on vit dans un monde qui ne fait pas de sens. On vit plein de choses avec le Seigneur sans arrêt. Il nous a pris avec lui, puis il nous a invités dans ses œuvres. Il nous a fait promener un peu partout sur la terre. On a vu des miracles, on a vu plein de choses avec lui. Hey, c'est une vie capotante qu'on vit là. Pas vrai? Fait que, cassez-vous pas la tête pour un petit sapin de Noël, s'il vous plaît. Ça va? Non, je sais qu'il y en a qui ils font leur vie chrétienne tellement plate. Je sais pas pourquoi. Ils pensent que Dieu aime ça quand c'est plate. Non, le Seigneur, il aime ça quand on se réjouit, quand on a du plaisir, quand on marche avec lui, quand on cherche c'est quoi ses œuvres, puis on embarque dans ses œuvres. Écoutez, honnêtement, on a vécu à date, pas vrai? La petite église de rien, on est le plus petit mouvement, je pense, du Québec. La Bible parle. On vit des affaires avec le Seigneur capotantes, que personne ne s'en prive. Racontons-nous sans arrêt les histoires qu'on a vécues. Surtout que la prochaine génération sache que nos enfants veuillent aussi embarquer dans ce que Dieu nous a fait vivre depuis des années. Trop beau ce qu'on vit. Seigneur, C'est tellement, tellement encourageant ce qu'on vit avec toi. Même dans un monde où est-ce que la maladie peut nous frapper, où la pauvreté peut nous frapper, n'importe quoi peut arriver, mais toi, tu t'es toujours manifesté dans nos vies, peu importe les bons temps et surtout dans les mauvais moments, tu nous as toujours montré que tu étais là. Seigneur, en tant que petite église, on a tellement d'histoires à raconter à ton sujet. Tu as tellement été généreux avec nous. Tu as tellement été bon, Seigneur Dieu. Continue à nous apprivoiser afin qu'on n'ait pas peur de vivre avec toi dans un monde qui est de plus en plus orgueilleux et méprisant, qui cherche à rire de toi et à traîner dans la boue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu le dis. Mais à tous ceux qui seront venus à toi, à ceux qui auront mis leur confiance en toi, ceux qui auront cru que tu payais vraiment la dette quand tu mourrais sur la croix. Seigneur Jésus, merci de les recevoir. Merci de leur montrer que c'est toi qui les sauves, parce que tu nous aimes. Merci, Père, de nous avoir aimés d'un amour éternel. Avant même la création, tu nous rappelles par les Écritures que la deuxième personne de la Trinité a voulu accepter ta volonté, Père, de s'incarner et de devenir un homme de douleur, de subir toute la douleur de cette vie, le rejet, l'injustice, la moquerie. On t'a méprisé, Jésus, même durant ton vivant, malgré tout ce que tu as fait. Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait, ça a fini qu'ils ont dit « crucifie-le ». Ils ont menti à ton sujet, ils ont détruit ta réputation. Et Seigneur, tu n'as rien dit. Tu as été jusqu'à te faire battre, couronné d'épines. Ils ont tous ri de toi. Ils t'ont cloué sur le bois. Et selon la loi de Moïse, quiconque meurt pendu au bois est déclaré publiquement maudit de Dieu. Et tu as reçu toute la malédiction qui devait nous tomber dessus, Seigneur. Seigneur, s'il vous plaît, l'année se termine et une nouvelle année va commencer. Ma prière, Seigneur Jésus, notre prière qu'on fait monter vers toi, dans nos quartiers, dans nos familles, ceux qui ont négligé jusqu'à aujourd'hui ce salut, s'il vous plaît, Seigneur Jésus, réveille-les. Réveille-les, Seigneur Dieu, pour qu'ils ne s'en aillent pas dans une nuit éternelle. Toi-même, Jésus, t'as décrit ce lieu comme un lieu où il y a des pleurs et des grincements dedans pour toujours. Seigneur, s'il vous plaît, accorde-nous la sagesse et surtout ton amour pour ceux qui n'ont pas encore cru en toi, pour qu'on puisse d'abord ne pas choquer les gens, s'il vous plaît, d'avoir une vie qui est digne de toi, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse t'annoncer quand tu es le seul moyen de sortir vivant de cette vie. Et merci pour ce temps de Noël. Un peu particulier, on va le vivre dans l'isolement, mais tu es toujours avec nous. Alors, merci énormément, Père, dans le précieux nom de Jésus, de nous avoir tellement aimés que tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.